Radio Okapi.
Vingt civils ont été tués par les miliciens de la Codeco cette nuit à Nizi et Kpandroma, dans le territoire de Djougou en Ituri. L'intervention de l'armée a permis de rétablir un calme précaire dans ces milieux, selon des sources concordantes. Procès Tchebea, la voix des sans-voix exige que les personnes citées par le policier Paul Mouilamboué comparaissent, condamnées par contumace au premier degré par la haute cour militaire. Le policier fugitif a 11 ans après fait sa déposition. Notre invité, c'est le professeur Luzolo Bambi. Il est intervenant dans un atelier de réflexion à Goma sur la justice transitionnelle. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. Environ 20 personnes sont mortes dans une double attaque la nuit dernière. Des miliciens de la Codeco à Nizi et Kpandroma, entités situées respectivement à 30 et 110 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Des sources concordantes indiquent que des dégâts matériels ont été enregistrés, dont l'incendie de plusieurs maisons et le pillage de biens de la population. L'intervention de l'armée a permis de rétablir un calme précaire dans ces milieux et certains assaillants ont été neutralisés. Isaac Rémo.
Un groupe de miliciens de la Codeco a envahi mercredi vers 14h le village de Katsa et Batsa, proche du centre commercial de Nizi, dans les territoires de Djougou. Ces hommes armés ont ouvert les feux sur la population, affirment les autorités coutumières locales. Quelques heures après, l'armée est intervenue et a engagé des combats avec les assaillants, combats qui se sont poursuivis jusque ce jeudi matin. Les bilans provisoires dressés par des sources locales et de sécurité des 12 civils tués par les assaillants et dont les corps traînaient encore ce matin au sol. Trois miliciens ont été neutralisés et des autres blessés pendant les affrontements. De nombreux habitants ont fui et d'autres sont portés disparus. À Kpandroma, ce sont des factions des miliciens de la Codeco qui se sont affrontés presque toute la nuit dernière. Selon des sources locales, les assaillants d'une faction tracassaient la population. Un autre groupe est intervenu pour les arrêter. Des échanges de tirs entre ces deux factions ont fait 5 morts, dont 3 miliciens et des civils, victimes collatérales pendant qu'elles cherchaient des sauterelles. Toutes les activités économiques et scolaires sont paralysées ce jeudi dans ces centres commercial. L'armée n'a pas voulu intervenir pour éviter d'autres victimes précises des sources de sécurité. Bunia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
En bref, le ministre ougandais de la Défense et son homologue congolais vont signer dans les heures qui suivent l'accord de coopération en matière de la défense et de sécurité. Les travaux entre les experts de la RDC et de l'Ouganda en présence de ces deux personnalités sont en cours à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces ougandaises et congolaises dans les opérations de traque contre les ADF. Les questions des litiges sécuritaires au niveau des frontières communes sont également à l'ordre du jour. Au Nord Kivu, 5 personnes ont été tuées hier mercredi dans la soirée par des hommes armés dans la commune de Mangina, à 30 km à l'ouest de la ville de Beni. Des responsables de la société civile affirment pourtant avoir alerté les forces de l'ordre sur la présence des combattants armés non identifiés dans la zone depuis plusieurs jours. Suivez les explications de Marc Marofimbo.
Selon des sources de la société civile à Mangina, les assaillants ont attaqué la cellule d'Ara dans le quartier Massimbembe. À en croire le président de la société civile locale, cette attaque intervient après 3 jours d'alerte sur la présence des combattants armés dans la région. Kakule Vunyati s'en désole, disant craindre que le bilan de cette attaque ne soit plus lourd. La même source annonce que les assaillants ont également pillé des pharmacies et des maisons de commerce. Kakule Vunyati.
Nous sommes en train de déplorer et qu'il y a eu des alertes de la population par le biais de la société civile depuis 3 jours. Voilà qu'il y a eu une surprise, disons, d'attaque. Or, ces alertes pourraient servir à éviter cette éventuelle surprise d'attaque. Malheureusement, l'ennemi est entré, voilà les dégâts qu'il a causés.
Des sources locales disent craindre que la présence d'hommes armés dans la zone ne complique davantage la situation économique dans la région. Mangina reste parmi les rares zones où la production agricole est encore importante. Les autres font face à l'insécurité. Autre crainte, les trafics entre Beni, Luna, Komanda et Bunia. Pour éviter les attaques armées, la population est obligée de contourner Beni par Mangina et rejoindre directement Mambasa Kinshasa et Komanda. La société civile demande aux autorités militaires de se pencher sur la sécurisation de cette région pour éviter des problèmes d'approvisionnement des centres de consommation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, un convoi humanitaire escorté par les casques bleus est tombé hier mercredi dans une embuscade des présumés combattants Mai Mai à Kanyambi. C'est dans la zone de Mambasa, territoire de Lubero. Selon les sources humanitaires, 3 agents du HCR ont été blessés. Ces derniers ont été sécurisés et pris en charge par les casques bleus, indique le HCR. Bernard Danyangi nous en dit plus.
L'attaque a eu lieu hier vers 13h locale dans cette zone qui est située entre Mambasa et Kitsombiro, ainsi que les sources du HCR à Goma. Les agents de cette agence tunisienne et leurs partenaires revenaient en convoi d'une mission de distribution des articles d'urgence à des personnes déplacées et à des familles d'accueil dans les villages de Kirumba et de Miriki, au sud de Lubero, quand ils sont tombés dans une embuscade de ce groupe de coupeurs de route, présumé Mai Mai, à Kanyambi. Ces bandits armés ont ouvert le feu sur le convoi. Un véhicule du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été touché et 3 membres de son personnel ont été blessés. Ces derniers ont été mis en sécurité par l'escorte militaire de la MONUSCO qui leur a administré les premiers soins avant de les acheminer à Goma. Tout en condamnant cet incident, le bureau du HCR à Goma réitère que les acteurs humanitaires ne doivent pas être une cible de quelque groupe que ce soit. Des sources locales au sud de Lubero indiquent que depuis 2 semaines maintenant, ce groupe de Mai Mai coupe régulièrement la route aux voyageurs au niveau de Kanyambi pour braquer les véhicules. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
À Matadi, dans le Congo central, 4 voleurs de grand chemin ont été appréhendés hier dans la commune de Nzanza. Ces bandits ont été pris vers 1h du matin dans la maison d'un officier de la police avec plusieurs appareils électroménagers volés à la population. C'est à la suite d'une opération menée par la police nationale congolaise pour retrouver les évadés de la prison centrale de Matadi. Le maire invite la population à dénoncer toute personne et tout mouvement suspect dans leur environnement. Nana Purishmambo, reportage.
Ces 4 voleurs arrêtés cette nuit dans la commune de Nzanza ont avoué leur forfait après avoir subi une intense pression des policiers militaires. L'officier de la police, propriétaire de la maison où ces bandits ont été retrouvés, a quant à lui pris la poudre d'escampette. Après leur arrestation, ces voleurs ont conduit les maires de Matadi et la police au quartier Kambanana, au domicile d'un certain Dadi Zezwa, considéré comme parrain de tous les voleurs qui opèrent en Nzanza. Chez ses parrains, l'autorité urbaine dit avoir trouvé plusieurs appareils électroménagers et d'autres très bien volés, notamment plus de 10 écrans LED, des tapis, des motos et des chaînes musicales. Pour mener à bien cette opération visant à sécuriser la ville de Matadi, via la récupération des fugitifs de la dernière évasion de la prison centrale de Matadi, le maire de Matadi invite la population à dénoncer les malfaiteurs. Maître Patinzouzi.
Nous avons récupéré des criminels dans la maison d'un officier de la police et certains ont fui. Nous avons récupéré plusieurs effets. Pas plus tard qu'avant-hier, on a eu à voler dans une maison dans le parage. Comme j'ai toujours dit qu'il faut toujours continuer à dénoncer.
Notons que parmi ces inciviques arrêtés, 2 ont été reconnus comme des évadés de la prison centrale de Matadi. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
En justice, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme exige la comparution de toutes les personnes citées par le major Paul Mouilamboué et qui constituent la chaîne criminelle de ce qui s'est passé le 1er juin 2010 à l'inspection générale de la police nationale congolaise, condamnée par contumace au premier et second degré par la haute cour militaire. Le policier fugitif a 11 ans après fait sa déposition hier devant la même cour au procès repris en appel sur le double assassinat des défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Rostin Manketa, directeur exécutif de la VSV, a assisté à cette audience. Il livre ici sa déclaration au micro de Jeff Ngoy.
La VSV pense qu'il est important de faire comparaître toutes les personnes citées par le major Paul Mouilamboué. Et parmi ces personnes, il y a l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le général Pondé, le bourgmestre de l'UMT, Monsieur Douglas, et bien d'autres personnalités qui ont été citées par le major Paul Mouilamboué. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme félicite les autorités congolaises en général et la justice militaire en particulier appuyés, qui ont mis tout en œuvre pour garantir la sécurité au major Paul Mwilambwe. La VSV demande à la communauté internationale de suivre de près le déroulement de ces procès qui constituera un déclic dans la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo. La Voix des Sambres pour les droits de l'homme en appelle à la mobilisation et à la vigilance de tous les acteurs et toutes les actrices de la société civile.
Dans la province du Kwilu, le tribunal militaire de garnison des Kikwit a condamné à 20 ans de prison ferme le militaire Bongo Lisangi Joseph, premier sergent des FRDC de la 11e région militaire, pour infraction de viol sur mineur. Ce verdict est tombé hier mercredi lors de ses audiences en matière répressive au premier degré organisées à Kikwit. Le condamné doit aussi payer comme frais de dommages et intérêts un montant de 10 millions de francs congolais. Irène Bomba nous en dit plus.
Poursuivi pour avoir violé à trois reprises une fille de 13 ans, le militaire Bongo Lisangi Joseph, premier sergent de son état, a écopé de 20 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une somme de 800 000 francs congolais comme frais d'amende, a-t-on appris des sources proches du tribunal militaire de garnison de Kikwit. C'est ce tribunal, siégeant hier mercredi en matière répressive au premier degré à son siège à Kikwit, sous le joug de son juge président, le magistrat-major Bienvenu Mwanansele, qui l'a condamné. Comme dommage et intérêt, Bongo Lisangi Joseph est sommé de payer à la victime la somme de 10 millions de francs congolais ensemble avec l'État congolais, car selon ces mêmes sources, les forfaits ont été commis pendant les heures de service. Signalons que le condamné avait commis ce viol au mois d'août et de septembre 2020 à Kikwit. La fille était tombée enceinte à la suite de ses actes de viol et a connu un avortement spontané quelques temps après à cause des infections mal soignées, ont rapporté nos sources. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En santé, dans la province du Maniema, c'est jeudi, le gouverneur de intérimaire vient de déclarer l'épidémie des monkeypox. Cette déclaration intervient après que la zone de santé de Tunda, dans les territoires de Kibombo, a notifié 191 cas avec 24 décès, dont les échantillons prélevés dans différentes aires de santé de cette partie du Maniema ont été confirmés par le laboratoire de l'INRB. Afani Idrissa sollicite l'appui de tous pour freiner la propagation de cette épidémie. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Depuis la 39e semaine de l'année 2021, la zone de santé de Tunda, dans le territoire de Kibombo, a notifié 191 cas, dont 24 décès dits au monkeypox. Au cours de la 40e semaine, les échantillons prélevés dans les aires de santé de Wenga, Uchu et Weta ont été envoyés à l'INRB pour des analyses dont les résultats viennent de confirmer l'épidémie. Y égard à ce qui précède, je déclare l'épidémie de monkeypox dans la province du Maniema et sollicite l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement ainsi que des humanitaires pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, je demande à toute la population du Maniema en général et celle du territoire de Kibombo en particulier de consulter les centres de santé les plus proches en cas de fièvre et éruption généralisée marquée au niveau de la face, des paumes des mains et plantes des pieds.
Actualité internationale. En Afrique du Sud, le variant Omicron serait à l'origine de la multiplication des cas dans les hôpitaux. Face à la recrudescence, le pays a autorisé l'administration d'une dose de rappel de vaccin anti-Covid Pfizer aux adultes dès l'âge de 18 ans. Cependant, si Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, il provoque des symptômes moins sévères que le variant Delta. La Chine a condamné ce jeudi la décision de quatre pays, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Canada, qui ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février 2022. Les quatre pays qui enverront des athlètes aux Jeux, mais pas des responsables officiels, paieront le prix de leur décision, a averti devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Luzolo Bambi, intervenant dans un atelier de réflexion à Goma sur la justice transitionnelle. Celui-ci a soutenu que l'un des piliers de la justice transitionnelle reste la justice. C'est elle qui va faciliter la vraie réconciliation et le rétablissement de la vérité dans la vie des Congolais. Cette rencontre a réuni durant 2 jours à Goma des magistrats civils et militaires venus de plusieurs provinces afin de définir des stratégies pour faire intervenir la justice congolaise dans les poursuites des auteurs des crimes internationaux commis en RDC. Le professeur Luzolo Bambi s'entretient avec Sifamagou.
Professeur Luzolo Bambi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présentement à Goma où vous avez pris part à cet atelier d'échange avec les magistrats civils et militaires sur l'instauration dans les jours qui viennent de la justice transitionnelle en RDC. Pourquoi d'abord ? Cette question
répond à la volonté politique d'organiser la justice transitionnelle telle que l'a exprimé le chef de l'État en ce moment précis. Pourquoi Goma ? Goma est l'épicentre de l'histoire du crime international ces 20 dernières années dans notre pays. Vous le savez, le rapport Mapping, vous le savez, 2003-2021, toute la comptabilité macabre, des millions de morts, Makobo, Lakasika, Mwenga, Kamitoudga, aujourd'hui Beni, Ituri, l'épicentre c'est Goma. De tout ce qui se passe, il n'y a pas eu assez de réactions dans le cadre de la justice transitionnelle qui est une justice qui est faite pour une justice de résilience, pour essayer d'aider un peuple qui a subi un grand traumatisme à la suite des conflits à se reconstruire. La question, elle est simple. De ces milliers de morts qu'on a connus au Congo, qu'on est encore en train de connaître, quelle est la réponse de la justice congolaise pour réconcilier les Congolais? Voilà pourquoi les magistrats venus de Tanganyika, de Beni, de Ituri, de Goma, de Bukavu, et tous ces magistrats civils et militaires ont été mis ensemble pour qu'ils comprennent quelle est la stratégie, comment est-ce que la justice peut intervenir pour essayer de poursuivre tous les auteurs des crimes internationaux qui ont été commis jusque-là et qui nous ont endeuillés. Et donc, au bout de cette conférence, nous avons noté l'engagement des magistrats à se mettre en ordre de bataille pour intervenir dans ce volet de justice transitionnelle. Puis je rappelais que cette justice a 5 volets. La connaissance de la vérité, les victimes ont besoin de connaître la vérité, la justice, donc les poursuites judiciaires, la réparation, il faut réparer le préjudice causé aux victimes. On parle de la clémence, le pardon ici, ce sera le pardon. Finalement, ce qui est important, c'est que les victimes acceptent d'accorder le pardon au bourreau. Jusque-là, le pardon a été détourné par les lois d'amnistie. On a plus amnistié que d'avoir demandé aux victimes de pardonner à leur bourreau. Et puis enfin, les garanties de non-répétition. C'est-à-dire, comment rédiger les lois aujourd'hui de manière à ce que tout celui qui commet ce genre de crime puisse être poursuivable. Mais en même temps, comment faire en sorte que dans la construction d'un nouvel état de droit, que demain, ce genre de crime ne puisse plus se connaître dans notre pays. Alors donc, je pense que tous ces débats que nous avons pu avoir ensemble nous a amenés à comprendre que dans les 5 piliers de la justice transitionnelle pour reconstruire le Congo, le 2e pilier, qui est le pilier justice, est pris en charge par le magistrat. Il appartient maintenant à toutes les autorités à accorder un grand accompagnement. Nous saluons les efforts et la présence du gouvernement pour l'accompagnement de la justice transitionnelle. Et je crois que c'est dans ce sens-là que je peux encore revenir sur le fait de la justesse de la mesure prise par le chef de l'État en décrétant l'état de siège. Parce qu'effectivement, l'état de siège est un élément de réponse important sur la justice transitionnelle.
Professeur, donc, oui. Est-ce que vous avez déjà posé les bases pour l'application, pour la concrétisation de cette justice transitionnelle? Qu'est-ce que vous avez défini ici comme mécanisme?
Il y a 10 ans, j'étais à Goma. Je suis allé visiter un bébé qui était un enfant né d'un viol. Lorsque j'avais posé la question à sa maman, comment s'appelait l'enfant? Non, c'était une fillette. Il s'appelle Njibu. Njibu, ça signifie répondez. L'enfant, le nom de l'enfant, c'était une question. Et cet enfant-là porte encore un nom qui interpelle toute la communauté congolaise. Répondez, je suis un produit du viol. Qu'est-ce que vous en dites, le peuple congolais? Aujourd'hui, à Goma, je pense que la volonté politique du président de la République de décréter la justice transitionnelle est un début de réponse à Njibu, à cette question Njibu. Maintenant, quels sont les mécanismes? Les mécanismes, c'est tout le travail que le gouvernement est en train de faire. Au Congo, il y a le rapport Mapping qui n'a pas de réponse. Il y a les différents crimes qui n'ont pas de réponse. plus de 6 millions de morts. On ne veut pas construire l'état des droits sur les cendres de ces morts. Voilà pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui, un élément de justice transnationnelle, est un début de réponse.
Dernière question, est-ce que les avis ou les souhaits de la population sont pris en compte dans cette démarche?
J'ai entendu M. le ministre des Droits humains parler dans le cadre du gouvernement d'un programme de consultation populaire. Je pense que c'est génial.
C'est important
que cette démarche du gouvernement puisse être encouragée parce que dans le cadre de cette démarche, on peut considérer qu'il s'agira là de l'appropriation de toute la population congolaise et en particulier de celle de l'Est ici, des victimes surtout de la politique de justice transnationnelle telle que cela a été décrétée.
Merci beaucoup, merci, professeur Lezolo.
Merci, madame.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.